avec Emmanuel Bastide pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue 7 milliards de voisins et de voisines. Aujourd'hui, on laisse la parole à des diasporas africaines. Le continent est-il vraiment attractif? Une étude sort ce jour sur l'attractivité professionnelle du continent auprès des diplômés et des cadres de la diaspora. Alors, quelles sont leurs perceptions des entreprises africaines, du marché de l'emploi, des opportunités de carrière, des salaires, de la vie sur le continent? Comment rendre l'Afrique plus attractive pour ces diplômés expérimentés? On va en discuter avec nos invités. Saad Berada, bonjour.
Bonjour, Madame Bastide.
Vous êtes directeur des ressources humaines pour le groupe Itelsia, qui est une société, un groupe international, multinational, très présente sur le continent africain, qui fait de la relation client, une société de conseil. Vous avez commandé cette étude auprès du cabinet Innogence Consulting, qui a interrogé 800 personnes de la diaspora. À la question, est-ce que vous envisagez d'aller vous installer ou de vous réinstaller en Afrique, 71% répondent qu'ils veulent rentrer. Toute la question est de savoir quand et s'ils rentreront vraiment. On va en discuter. Mohamed Maïga est également avec nous. Bonjour.
Bonjour.
Mohamed, vous êtes né au Mali, arrivé en France à 18 ans pour des études à Bordeaux. Vous travaillez aujourd'hui pour la ville de Montreuil. Vous êtes aussi un jeune entrepreneur. David Gay aussi avec nous. Bonjour.
Bonjour.
29 ans, vous êtes né en France. Vous travaillez dans le conseil en stratégie et business développement en Afrique et vous vous interrogez sur l'opportunité de vous installer sur le continent. Le continent est dans le pays de vos parents qui sont sénégalais. Noémie Tula, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes congolaise, née en Europe. Vous avez vécu 10 ans à Kinshasa. Avant de revenir en France, vous travaillez dans l'architecture d'intérieur. Aujourd'hui, vous nous parlerez de ces va-et-vient, aller-retour. Et quant à vous, les voisins et les voisines, partir, revenir, rester, appelez-nous. Dans quel état d'esprit vous êtes si vous faites partie de ce qu'on appelle les diasporas africaines? 33 1 84 22 71 71, c'est aussi le numéro WhatsApp pour nous laisser des messages. Allez, je vous lis quelques commentaires qui ont été postés sur les réseaux sociaux et évidemment, vous avez le droit de réagir. Chris à Kinshasa nous dit qu'il faut que les diasporas arrivent à proposer les idées pour que le bonheur et le développement de leur pays et non être insultant vis-à-vis du gouvernement. Bon, allusion aux opposants politiques en Europe qui sont toujours très bavards. Awal au Cameroun, les salaires, le système fiscal, la question des libertés individuelles, voilà quelques raisons qui démotivent le mouvement de retour de diaspora vers ce continent avec une croissance à double vitesse. Autre commentaire de Marcel qui est aussi au Cameroun, il faut renforcer notre système de gouvernance pour retenir nos ingénieurs et autres spécialistes formés en France afin qu'ils contribuent au développement du continent africain sans forcément attendre un salaire très alléchant. Sylvain est au Sénégal et il nous dit qu'en Afrique, dans la plupart des pays, les rémunérations sont peu attrayantes alors que la vie est très chère. À cela s'ajoute le problème du manque d'opportunités et de politiques d'accompagnement de la part des gouvernements. Youssef Nouakchott en Mauritanie, la diaspora africaine doit bel et bien revenir, investir en Afrique pour diminuer le départ des clandestins africains vers l'Europe. Écoutez aussi le témoignage de Mohamed, il est à Moroni, aux Comores, et il a posté sur WhatsApp.
Bonjour le voisin et les voisines, le Comorien qui habite en France, il n'a jamais su prendre le risque d'investir. Les Comoriens qui habitent en France adhèrent à des associations villageoises ou régional. Chaque association organise des cotisations. Et chaque fin du mois, on peut décider que chaque membre va cotiser 100 euros ou 200 euros ou 300, ça dépend de moyens de ses membres ou des décisions qu'ils ont prises ensemble. C'est la raison pour laquelle le Comore jusqu'à aujourd'hui ne se développe pas. Même si les pouvoirs politiques en place ne facilitent pas leur installation au Comore, mais ils devraient lutter ensemble pour qu'ils puissent créer de petites et moyennes entreprises dans le pays via l'argent qu'ils gagnent dans ces cotisations. Parce que je pense que les sommes colossales qu'ils gagnent dans cette cotisation peuvent les aider à investir, à devenir des entrepreneurs de grande taille. Ça, j'en suis sûr. Le problème, c'est qu'ils ne prennent jamais ces risques d'investir.
7 milliards de voisins.
On est en forme.
C'est l'attitude qui gagne.
On est ensemble pour parler de votre avenir. Vous nous appelez si vous faites partie des diasporas africaines, revenus, rentrés, en train d'hésiter. 33 1 84 22 71 71. Qu'est-ce que vous pensez des points de vue d'auditeurs qu'on a entendus là, Mohamed Maïga?
Je pense qu'on a beaucoup entendu de diaspora, soit en place là-bas déjà retournée, soit ici, comme le cas du Comore par exemple, où on parle de, effectivement des masses de manne financières qui sont effectivement récoltées qui peuvent servir à investir, mais qui sont utilisées autrement. Je pense que c'est pas seulement le cas du Comore, hein, c'est que les diasporas africaines ici sont organisés dans ce sens-là. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de cotisations, il y a beaucoup d'organisations, mais sous forme associative, effectivement. Ces sommes-là sont, malheureusement, j'ai envie de le dire, parfois très mal utilisées. On prend la région des Cayes, par exemple, puisque je suis au courant de ça. Au Mali. Donc, il y a énormément d'argent qui va dans cette région-là, que ce soit par le biais de la coopération décentralisée, que ce soit par le biais de la diaspora, organisée en association ou des familles, on va dire. Ça va très loin. Organisation familiale qui envoie de l'argent dans le village ou organisation associative des villageois qui envoient de l'argent ou des institutions qui envoient de l'argent pour aider là-bas. Mais ce n'est pas sous le format entreprise. Ce n'est pas sous le format d'innovation dans un certain sens.
Néanmoins, ces sommes sont plus importantes que la totalité de l'aide publique au développement. Hein. On le souligne souvent. Mais bon, là, on ne va pas faire une émission sur les transferts d'argent. On va faire une émission sur comment vous vous projetez ou comment vous vous êtes projeté sur l'idée de revenir sur le continent ou pas. Comment vous avez... est-ce que ça vous inspire d'autres commentaires, David Gueye?
Alors moi c'est une c'est vrai que les différents témoignages qu'on a pu avoir, c'est un petit peu une synthèse, hein, des échos que j'ai eu personnellement sur la question. Et moi, je me suis positionné tout simplement pas dans une logique où je voulais aider le continent ou aider les populations locales, mais plutôt dans une logique où je voulais réussir ma carrière professionnelle.
Oui, mais on peut le dire aussi.
Je me suis dit, et je joue avec quelle carte? C'est-à-dire que je suis français, d'origine sénégalaise, je connais la culture française, je connais la culture sénégalaise, j'ai eu la chance aussi de faire des études, et par rapport à ce que je suis, j'ai pris le pari que ce serait là-bas où j'aurais le plus de valeur ajoutée et donc le plus des réussites pour ma carrière professionnelle.
Et vous, Noémie Tula, alors, comment vous avez reçu les points de vue des auditeurs?
Moi, j'aimerais revenir sur le problème des opportunités, surtout en termes de salaire, etc. Moi, je suis restée ici pendant 15 ans et j'y suis retournée en 2004.
En RDC, à Kinshasa.
En RDC. Et du coup, j'y suis restée 10 ans. Et je suis revenue bredouille, c'est-à-dire que en tant que salarié, les salaires sont pas élevés du tout. Le niveau de vie est très cher pour se loger, pour manger, pour l'école des enfants.
La vie est très chère pour vivre à l'occidental.
La vie est très chère pour vivre à l'occidental, effectivement. Et du coup, il n'y a pas non plus de système. Moi, je travaille dans le milieu bancaire, donc tout ce qui est système d'épargne et tout n'est pas du tout développé. Et puis, en ce qui concerne l'entrepreneuriat, parce que j'ai aussi essayé de créer certaines petites choses, notamment un centre de loisirs que j'ai créé et que j'ai maintenu pendant 4-5 ans, mais sur fonds propres, totalement.
Là, l'idée, c'était d'être utile au continent et à votre pays.
Tout à fait, en termes d'éducation, mais il n'y a aucune structure ou organisme qui nous accompagne ou qui nous permette même d'être financés. Donc, c'est vraiment sur fonds propres. Donc, c'est très difficile, même s'il y a des besoins, d'entreprendre sur place.
Alors, on va entrer un peu plus en détail dans vos différents parcours. Mais moi, je voudrais que Saad Berada, vous nous expliquiez, donc, puisque la société Intel a commandé cette étude auprès de 800 personnes de la diaspora, pourquoi vous aviez besoin de mieux comprendre l'attractivité professionnelle du continent auprès des diplômés et des cadres de la diaspora?
C'est pour nous, Intelsia, donc, qui est une multinationale panafricaine, c'est une question essentielle parce qu'aujourd'hui, sur les 13 000 collaborateurs du groupe, aujourd'hui, nous en avons plus de 11 000 en Afrique. Donc entre le Maroc, les pays d'Afrique subsaharienne, donc le Sénégal, la Côte d'Ivoire et le Cameroun, et aussi en océan Indien, donc à Madagascar et Maurice. Et le développement de la société nous a tout de suite exposé à des sujets de compétences. qui n'existent pas ou peu localement sur certaines expertises très pointues, sur des compétences managériales. Donc, d'où est venue l'idée de dire, OK, aujourd'hui, partout dans le monde, il y a une diaspora qui a une expérience, qui a une compétence, qui a aussi une volonté de venir en Afrique. Donc, on s'est dit, au-delà de garder des clichés sur la volonté de retour et plutôt motivé par des aspects de rémunération ou de statut d'expatrié ou de stabilité politique ou de retour vers la famille, on s'est dit, il faut peut-être comprendre pourquoi cette diaspora veut-elle rentrer en Afrique, quels sont vraiment les leviers, les motivations pour que nous,
alors justement, en tant que employeurs,
voilà.
Alors, ils disent bon, beaucoup... j'ai dit, ils veulent rentrer à 71%, voilà. Mais alors, bon, à moyen terme, bon, c'est pas toujours très précis.
Oui et non, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, les 71% qui déclarent vouloir revenir, s'installer ou se réinstaller sur le continent, il y a aujourd'hui 40% qui disent on souhaite aller immédiatement. Et ça, pour nous, c'était la première surprise, parce que l'idée est toujours souvent là chez les diasporas, mais 40% aujourd'hui disent avoir en tout cas une volonté immédiate d'aller s'installer dans ces pays-là.
D'autant plus ils sont jeunes, plus ils veulent rentrer.
Tout à fait. La tranche 24-27 ans est un peu au-dessus par rapport à, certainement, parce que j'ai entendu le mot risque tout à l'heure dans les interventions des auditeurs qui parlent beaucoup du mot du risque. Effectivement, c'est quelque chose qu'on retrouve souvent quand on discute avec la diaspora, parce que c'est vrai qu'on a un modèle social en Europe, on a un certain confort et on a beaucoup de risques en Afrique. Bon, Madame parlait du système bancaire, de l'épargne, de l'aide de l'État, etc. Donc c'est vrai qu'il y a des vrais challenges. Après, nous, notre position, c'est de dire, en tant qu'employeur qui investit en Afrique, qu'est-ce qu'on peut faire pour la diaspora, pour au moins peut-être... je dirais arrêter quelques idées préconçues. Alors, à notre petite échelle, on n'est pas aujourd'hui, on ne va pas se substituer ni aux États ni au gouvernement, parce qu'on reste une
alors,
entreprise.
Quand ils disent je veux rentrer, ça ne veut pas forcément dire rentrer dans mon pays d'origine, d'où est originaire ma famille.
Pas forcément. Ça fait partie aussi des surprises qu'on a eues, parce qu'on pensait qu'une grande majorité allait dire « je rentre au Sénégal parce que je suis sénégalais » ou « ben non, c'est que 56% finalement ». C'est-à-dire que ben, y a tous les autres qui souhaitent rentrer, qui se disent ouverts à toute opportunité sur le continent. Et là, de quelle opportunité parle-t-on ? Et là, on va parler de... Les personnes sondées, en tout cas, parlent aujourd'hui de... Elles parlent beaucoup de je dirais, de sens. Beaucoup plus que la rémunération. Ça nous a aussi surpris, parce que c'est que, finalement, 32% des personnes qui disent la rémunération, c'est un facteur déterminant pour moi pour revenir. Je pense qu'on a compris que... Bah, y a une différence nette dans le niveau de vie et qu'on ne peut pas
alors
forcément...
La quête de sens, justement. Oui. Moi, je voudrais vous poser la question à tous les trois, Mohamed Maïga, David Gueye et Noémie Tula. Parce que, c'est vrai, on parle des diasporas africaines, on ne parle jamais des diasporas asiatiques, des diasporas latinos, comme s'il y avait quelque chose qui vous unifiait pour faire quelque chose pour le continent. Oui. Est-ce que c'est vrai ou pas, ça? Ou est-ce que c'est une idée reçue, Noémie Tula?
Je ne sais pas trop. Moi, je pense que l'idée de rentrer n'est pas, comme tu disais, juste une idée de revenir entreprendre ou aider pour le pays, etc. C'est aussi une recherche de ses valeurs, de sa culture. Ça fait partie des raisons principales, moi, je pense, et que peut-être dans les diasporas, enfin, moi qui connais un peu la partie latine, puisque ma mère est cubaine, ils sont plus ancrés dans leurs valeurs, même en étant à l'étranger, que peut-être nous, les Africains, où on se fond peut-être plus, où on s'intègre peut-être plus dans les autres pays. Moi, je vois en Suède, par exemple, où il y a une très forte communauté cubaine, enfin latino, ils restent avec leurs habitudes, leurs coutumes, etc. Donc, c'est très, très, très soudé. Et puis, ils ont la langue. Nous, on a une langue, pour la plupart des pays francophones africains, qui se font. Ce qui fait aussi peut-être qu'on a une intégration plus facile ou peut-être un détachement plus facile à nos valeurs d'origine.
Soluble dans l'Occident, les diasporas africaines, tellement soluble que finalement, quand il s'agit d'envisager un retour, vous vous posez des questions, Mohamed Maïga.
Je pense qu'il y a quelques éléments quand même qu'on peut mettre en lien avec l'idée de sens. Il faut déjà aller à la source. Pourquoi on est amené à être quelqu'un de la diaspora ? Parce que voilà, il y a un certain nombre d'éléments d'origine, c'est-à-dire on vient d'un pays, le Mali, le Sénégal.
Vous avez quitté le Mali à 18 ans, voilà, arrivé à Bordeaux pour vos études.
Voilà. Il y a des chocs qui, civils, j'ai envie de dire, bon, entre guillemets, hein, culturels, des chocs culturels qui se passent. Hein, on peut même aller jusqu'au bout, hein, dire des chocs civilisationnels. Donc à un moment donné, on arrive à un moment donné où on a beaucoup encaissé, on a beaucoup appris. Et maintenant, on cherche le sens. Qu'est-ce que je fais individuellement, moi, en tant qu'individu africain, originaire du Mali, de mon village, qu'est-ce que je fais de ce que j'ai appris? Est-ce que ça a un sens que je reste en Europe? Est-ce que ça a un sens que je continue à chercher de l'argent en Europe? Est-ce que ça a du sens à ce que je continue à aller dans mes objectifs là où je suis?
Est-ce que vous avez trouvé des réponses déjà à ces questions-là, Mohamed Maïga? Parce que vous avez un master en économie, vous travaillez pour la ville de Montreuil, vous êtes également... vous avez aussi une casquette un peu d'entrepreneur. Alors, est-ce que vous avez des réponses aujourd'hui à ces questions-là, vous, jeune trentenaire?
Je cherche, mais je pense que je suis sur des pistes. J'ai toujours, moi, je suis très reconnaissant, on va dire, du côté de la France, parce que la France a, contrairement à ce qu'on peut penser, la France a pris mes études en charge. Donc, c'est la France qui a payé mes études, pas le Mali. Ça a un impact important dans le sens du retour, dans le sens de la quête du sens, justement. Donc, j'ai des réponses parce que là, je me dis, bon, j'ai donné beaucoup ici, j'ai appris beaucoup, j'ai aussi travaillé, mais à un moment donné aussi, bon, il y a des réalités sociales, comme par exemple le plafond de verre qui n'est pas inconnu de tous, qui amène en fait à un moment donné à se forcer à réfléchir. Qu'est-ce que je fais? Donc, est-ce que j'ai des possibilités? Maintenant, je retourne. Donc, ce n'est pas forcément qu'on a des réponses, c'est qu'on cherche des réponses. Et moi, j'ai entrepris au Mali, ça fait déjà 5 ans à peu près que je suis en relation avec le Mali, le Sénégal, pour investir. Parce que pour moi, il faut investir, il faut amener une plus-value individuelle en termes de connaissances et pas compter seulement uniquement sur l'État et ce que l'État peut apporter pour nous accueillir. Non, comme il l'a dit Gay, c'est-à-dire qu'il faut aussi... à amener le sens de son accomplissement personnel, qui n'est pas forcément financier.
Ouais. Mais vous, David Gay, est-ce que vous êtes dans les mêmes questionnements ou pas? Parce que vous êtes né en France, vous êtes français avec des parents sénégalais. D'où vous vient cette idée d'un possible retour? D'ailleurs, je ne sais pas s'il faut parler de retour, il ne faut pas parler de retour pour vous, d'installation au Sénégal.
Exactement, c'est une sorte d'expatriation. Et moi, je vois aussi, je fais partie de la génération qu'on appelle Y, la génération Erasmus. Et je pense que c'est peut-être une génération, moi je le vois, que ce soit au niveau de mes amis qui sont issus de la diaspora, mais au niveau aussi des Français, qui a ce goût pour partir, qui a ce goût pour, que ce soit en Afrique, en Asie.
C'est ça, donc vous n'êtes pas différent des autres finalement.
Voilà, et pourquoi pas l'Afrique? Il y a 15 ans, on parlait de l'Afrique plutôt d'une manière beaucoup au niveau associatif, au niveau de l'aide qu'on va apporter. Aujourd'hui, on parle d'opportunités d'affaires, on parle d'emploi, et pourquoi pas, et je regrette absolument pas mon choix.
Alors, vous êtes nombreux à nous appeler pour discuter avec nos invités. Vous nous appelez au 33 1 84 22 71 71 et pour tous ensemble se poser, si possible, les meilleures questions et trouver quelques éléments de réponse. Rester, partir, revenir sur le continent africain. On parle des dilemmes des diasporas africaines aujourd'hui. Vous nous appelez, on vous donne la parole dans quelques instants.
Oui, la RFI.
7 milliards de voisins. On est toujours à l'écoute.
Alain nous rejoint au Standard en région parisienne. Bonjour Alain.
Oui, bonjour.
On vous écoute Alain, alors.
Alors, bonjour. En fait, c'est un thème qui, dès que j'ai écouté, je me suis dit, non, il va falloir que je partage mon expérience.
Ben oui.
Alors, pour nous qui sommes ici, bon, pour mon cas, je vais rester uniquement sur mon cas. Moi, ça fait 18 ans, je suis en région parisienne. J'ai à plusieurs reprises pensé retourner en Afrique, particulièrement au Cameroun, parce que je suis originaire du Cameroun. Mais j'ai été confronté à une situation qui ne m'a pas laissé indifférent. C'est-à-dire, une fois sur place, j'ai l'impression d'être étranger, alors que c'est le pays dans lequel, le pays qui m'a vu naître, le pays qui m'a vu grandir, le pays qui a contribué à ce que je suis aujourd'hui. Mais quand je suis retourné au Cameroun dans le but d'investir dans un secteur qui était porteur à l'époque, je vous rappelle...
Quel était ce secteur, Alain?
Alors, c'est un secteur de transport. J'avais voulu mettre sur pied une entreprise qui, à la fois, permettrait à transporter des personnes, pas le perfil quoi, mais un peu comme Uber. Je ne sais pas si vous connaissez le système Uber.
Oui, oui, oui. Bon, il y a déjà pas mal d'expériences de ce type sur le continent africain. Donc, vous avez tenté d'entreprendre sur le continent africain, juste en quelques mots, parce que vous êtes très nombreux à souhaiter intervenir dans l'émission, mais vous dites, je me suis rendu compte que je n'étais pas chez moi. Qu'est-ce que ça veut dire en termes là de sur le côté façon de faire, de travailler, business?
Non, non, ça veut dire pour pouvoir s'implanter, vous êtes d'accord avec moi qu'il faut, il faut des documents qui vont avec.
Oui.
Et quand on se retourne vers les autorités pour pouvoir obtenir ces documents, on a toutes les difficultés du monde pour pouvoir, obtenir, j'allais dire, ce laisser-passer qui nous permettrait justement de, d'exploiter ou de mettre en pratique ce que nous souhaiterons faire.
Bonjour Alain, si vous permettez, voilà, je suis DRH d'une multinationale installée en Afrique. Effectivement, je pense que tout dépend si on veut voir le verre à moitié vide ou à moitié plein. Aujourd'hui, effectivement, on peut se rendre compte qu'il y a parfois des challenges en Afrique en termes d'installation, d'entrepreneuriat. Mais je peux aussi vous donner l'exemple d'entreprises qui nous en 3 ans, on a 3000 emplois en Afrique. Et on y est allé comme ça en tant qu'entrepreneur avec nos moyens. Et puis faut s'accrocher. Je
Marocain
pense que
au départ.
Voilà, on est marocain. Ouais. Puis après on est allé dans des pays d'Afrique subsaharienne, dans le Cameroun. Et je pense que il y a une idée parce que quand on vit 18 ans comme vous à l'étranger. Je pense qu'il y a forcément une phase de réintégration. Parce qu'en 18 ans, les pays, ils ont évolué. Et souvent, les personnes qui reviennent... Alors, je ne sais pas si c'est votre cas, Alain, mais je pense qu'on a toujours l'Afrique des années 90, début des années 2000, mais l'Afrique aussi a évolué, comme ça a évolué les autres continents, ouais. Les autres pays. Et je pense que c'est peut-être cet ajustement.
Mais ne faites pas passer les voisins ou les auditeurs pour des gens qui seraient déconnectés des réalités du continent. Ouais. Hein. Ils sont en lien, ils y retournent l'été. Ouais. Maintenant, il y a les réseaux sociaux, donc ils sont en permanence reliés. Ouais. Vous n'allez pas me démentir. Hein. Donc, ce n'est pas vraiment, même si il y a forcément un décalage. Alors, je voudrais qu'on donne la parole à Sékou, qui nous appelle de région parisienne également. Bonjour Sékou.
Oui, bonjour. Bonjour à tous les auditeurs. Et je me permets d'intervenir sur votre émission parce que je me reconnais principalement sur le thème du jour. Mm-hmm. Et, au fait, moi, je suis d'origine guinéenne. Mm-hmm. Et je vis, il y a, comme dit mon prédécesseur, 18 ans en France. Et je suis un professionnel de santé. Et le bémol est que l'Afrique actuellement, particulièrement dans mon pays, et aucune mesure d'acceptation des expatriés comme nous qui ont fait l'université en France ou ailleurs dans l'Occident. Pour une mesure de réception
on va pas se mentir, vous êtes pharmacien, vous revenez tous les ans en Guinée, vous avez une épouse et une fille en Guinée. Vous avez donc des cordes à votre arc hein, pour rentrer vous installer en Guinée. Quel est le principal frein à l'heure actuelle pour vous?
Sur le terrain, il n'y a pas de mesure. On ne trouve rien parce que nous ne sommes pas intégrés une fois là-bas. Parce que moi, j'ai essayé de venir depuis 2015, 2 fois par an, mais rien ne me motive pour m'installer, pour revenir définitivement dans mon pays.
Mais quand vous dites je ne suis pas intégré quand je reviens là-bas, qu'est-ce que vous voulez dire précisément?
C'est parce que côté professionnel, pas du tout. Ouais, et vu alors, actuellement ce qui se passe particulièrement dans mon pays, c'est pas du tout encourageant. De revenir dans mon pays.
Vous pensez à quoi précisément? À l'instabilité politique? À quoi?
Et tout à fait, l'instabilité politique, tout ce qui était là avant que je ne quitte le pays, tout a été dégradé et cela ne nous encourage pas de revenir s'installer dans notre pays.
David Gueye.
Ouais, je pense que ce que notre auditeur veut dire, c'est qu'il y a une certaine difficulté à lire le marché du travail en Afrique. Mais c'est une difficulté qui a double sens, c'est-à-dire que à la fois, moi, je suis souvent contacté par des amis de la diaspora qui veulent, qui font partie des 71% qui veulent retourner en Afrique, mais qui ne savent pas par par quoi commencer, où est-ce qu'on trouve les offres d'emploi, et qui ont vraiment une difficulté à avoir l'information au niveau des opportunités. Et dans le même temps, la plupart des entreprises avec lesquelles je travaille cherchent justement des cadres, cherchent des employés, et elles aussi ont parfois des difficultés à identifier les profils qui correspondent aux missions qu'elles proposent. Et c'est vrai qu'il y a une difficulté à créer justement ce match.
Tout à fait.
Il y a salons, il y a des chasseurs de têtes.
Voilà.
Y a...
Ça se multiplie.
Mais malgré tout,
ça fait une réponse justement, c'est tous ces salons et tous ces événements qui sont aujourd'hui, qui prennent place, répondent à cette demande qui est des deux côtés, je pense.
Noémie, tu l'as. Moi, je voudrais dire, puisque je suis retournée et j'ai retravaillé là-bas, qu'au-delà du fait de peut-être avoir la difficulté de trouver un travail ou d'avoir des profils qui ne matchent pas, etc., le problème aussi, quand on est sur place et qu'on est engagé, on a un problème avec les locaux, entre guillemets. C'est-à-dire qu'ils nous regardent comme celui qui va avoir le meilleur poste parce qu'il a un diplôme de l'Europe. Mmh. Et moi, j'ai eu beaucoup de problèmes avec mes collègues à cause de ça. C'est-à-dire que...
Dans la banque.
Voilà, c'est-à-dire qu'ils se disent pourquoi elle a ce poste et moi, je ne l'ai pas.
Le fait que vous soyez une femme,
on est
c'était
l'étranger.
Un problème ou pas, le fait que vous soyez une femme?
Oui,
ou pas
en plus, rajoutant le fait que je sois une femme, c'est encore autre chose. Parce qu'on est confronté déjà à une mentalité assez spécifique vis-à-vis de la femme. Moi, je suis arrivée là-bas, donc je n'étais pas mariée. J'avais une fille et je vivais seule avec ma fille. Donc, très mal reçue d'un point de vue mentalité. J'étais considérée comme une fille légère, entre guillemets, pour le dire. Et au niveau du travail, même à avoir des clients qui n'acceptaient pas que je gère leur compte. Parce que c'était marqué mademoiselle et pas madame. Donc, il y a aussi ça qui est difficile à gérer. Quoi.
Mohamed Maïga, bout d'impatience.
Ouais, je pense qu'il y a, dans ce que l'auditeur dit, il y a quelque chose de très particulier. Effectivement, je pense que je suis d'accord avec vous sur pas mal de choses, mais il dit quelque chose de particulier, c'est-à-dire qu'il y a un sentiment. Ce sentiment est très important. C'est-à-dire que je suis ici, j'ai fait beaucoup de choses ici. Aujourd'hui, mon pays, je vais y aller aider mon pays. Est-ce que mon pays s'intéresse à moi? Est-ce que mon pays veut de moi? Est-ce que mon pays s'intéresse réellement à moi? Qu'est-ce que mon pays fait pour moi? Aujourd'hui, on prend le cas, par exemple, des étudiants qui viennent étudier ici, par exemple, au début. C'est des gens qui sont jetés, en fait, dans ces pays. Même s'ils ont des bourses, en fait, souvent, dans la plupart des cas, aujourd'hui, ça commence un peu à se questionner. On n'est pas dans l'application. Les États commencent à se poser comment on va les suivre, tout ça. Mais ce n'était pas le cas. C'est comme le cas du pharmacien. Il était ici et aujourd'hui, il a envie de retourner, mais il n'y a pas cette proximité-là avec son pays. Les États africains doivent s'intéresser à ces diasporas-là, pour un peu les familiariser, un rapport
qu'est-ce
social.
Qu'est-ce que vous entendez par s'intéresser? S'intéresser avec des budgets, avec des facilités administratives? Oui. Vous attendez un signal finalement presque psychique, symbolique, ou quelque chose de beaucoup plus concret?
Il y a un accompagnement déjà pour les étudiants. Moi, je sais qu'à l'époque, j'avais fait un stage à l'ambassade du Congo et je m'occupais des boursiers. Mais c'était la catastrophe. C'est-à-dire que déjà, les bourses n'étaient pas données à temps, etc. Donc déjà, on a une espèce de méfiance vis-à-vis de son propre pays, de son propre État, alors qu'on va l'obtenir de la France, par exemple. Voilà. Et il n'y a pas un suivi. C'est-à-dire que je pense que les ambassades, les consulats, les associations, il devrait y avoir une effervescence un peu plus...
Alors, vous restez bien sûr avec nous, on vous donne la parole, les voisins et les voisines. Restez, revenir, les grands dilemmes des diasporas africaines. On a parlé beaucoup des freins psychiques, du symbolique, du rôle des États. Il faut qu'on parle aussi des entreprises africaines, parce qu'il y a une bonne partie de ceux qui se projettent dans le retour, qui ont envie de travailler dans des entreprises africaines, et pas forcément des grandes multinationales. Vous nous appelez au 33 1 84 22 71 71.
Jeté dans les eaux, un peu malgré moi, l'appel est si fort que je me perds un peu parfois qui on est, où l'on va. Au moins je sais qu'un bout de mon âme demeure chez toi. Congo, à l'image de ton fleuve, ton tumulte m'émeut et arrache tous mes masques. À nu, je me jette à l'eau. Quel rôle m'offres-tu? Quel enfant suis-je pour toi?
toi, le sage ou le têtu. Celui qui t'aime en tout cas te l'est, je dis, le sais-tu. Congo, avec toi j'aimerais me lever. Congo, avec toi j'aimerais danser. Congo, avec toi j'aimerais avancer vers des jours plus beaux.
Au pays mien, présent passé, le futur un sentier de bohémien. Bout de toi, bout de ton âme, je suis. Ta sueur et tes larmes, j'essuie. En fond du fleuve, des forêts, des villes, les cupides ont dévoré nos vies. J'ai lu chaque ligne de la lettre à Pauline, du fond de l'abîme, j'ai vu l'aurore opaline. Avance, je trébuche mais j'avance vers des jours plus heureux. Je danse des rumbas raturés aux guitares saturées. Mégaphone à toute tête pour chanter.
Avec toi j'aimerais me lever, Congo. Avec toi j'aimerais laver, Congo.
Yeah, Congo.
Congo. Avec toi j'aimerais me lever, Congo. Avec toi j'aimerais laver, Congo. Congo.
C'est la très belle chanson de Kolinga et Gaël Faye, programmée tout spécialement pour vous, les voisins et les voisines, puisqu'on parle des diasporas africaines aujourd'hui chez 7 milliards. On est en direct sur RFI et on en discute avec Saad Berada, qui est directeur des ressources humaines du groupe Intelsia, qui a commandé cette étude qui sort aujourd'hui auprès de 800 personnes de la diaspora sur leurs attentes, les freins aussi à la réinstallation sur le continent africain, puisque votre multinationale a besoin de ces talents-là dans les pays dans lesquels vous êtes implanté en Afrique subsaharienne. Mohamed Maïga, vous êtes né au Mali, arrivé en France à 18 ans pour des études à Bordeaux et vous êtes dans ces questionnements. David Gay, né en France, deux parents sénégalais. Noémie Tula, congolaise, née en Europe. Vous travaillez aujourd'hui, après des allers-retours, 10 ans passés à Kinshasa. Aujourd'hui, vous êtes de nouveau en France et vous travaillez dans l'architecture d'intérieur. Et on vous donne la parole, 33 1 84 22 71 71. On accueille Alioum. Non, pardon, c'est Stéphane qui est à Ouagadougou, au Burkina. Bonjour Stéphane.
Bonjour.
Stéphane, vous travaillez au Burkina Faso dans une entreprise d'informatique, une entreprise internationale. Vous avez aussi d'ailleurs lancé un orphelinat, un centre médical, un centre d'éducation. Vous avez deux diplômes universitaires que vous avez obtenus en France et au Canada. Et vous êtes rentré il y a 7 ans. Est-ce que maintenant, vous pouvez nous dire d'abord pourquoi vous êtes rentré et où est-ce que vous en êtes aujourd'hui ?
Honnêtement, du point de vue professionnel et social, tout se passait vraiment très bien. J'étais vraiment bien intégré à mon environnement. Je pensais avoir atteint tous les objectifs que je m'étais fixé.
Au Canada ou en France ?
Au Canada. Mm-hmm. Au Canada. Jusqu'à ce que je me rende compte en fait qu'il me manquait cette chaleur humaine qu'on a en Afrique et qu'on reproduit difficilement ailleurs. Donc voilà, du jour au lendemain, j'ai décidé de tout lâcher et de rentrer. Mm-hmm.
Comment vous avez trouvé du boulot ?
Ça a été très difficile au départ. Vous avez parlé de la structure que j'ai montée par rapport à l'orphelinat, qui fait en même temps centre d'éducation et centre de réinsertion sociale. Cette structure, elle est née du fait justement que pendant les deux premières années, je n'arrivais pas à trouver d'emploi. Mmh. Donc au lieu de me tourner les pouces, j'ai décidé de faire des actions. Mmh. Et du coup, cette structure est née de cela. Donc mon premier poste, je l'ai eu en fait deux ans après mon arrivée au Burkina.
Deux ans après l'arrivée au Burkina ? Ah ouais, là vous allez en refroidir certains. Hein. Qu'est-ce qui se passait, vous passiez des entretiens, vous étiez diplômé, vous étiez sur un secteur en pleine expansion. Alors certes, c'était il y a 7 ans, hein, mais quand même.
Oui, vous avez parlé tout à l'heure des personnes qui sont très connectées de nos jours et tout ça. J'en faisais partie. Mais je pense que quand on vit à l'étranger, en fait, on est un peu déconnecté des réalités de la localité. Mmh. On arrive ici avec beaucoup d'illusions. Par exemple, dans mon cas, je me suis dit, deux diplômes universitaires, trois langues étrangères parlées, je suis natif du pays, je parle les langues locales, je vais trouver un boulot tout de suite parce que j'apporte un bagage professionnel. Mais la réalité du terrain est tout autre, en fait. Voilà, et on arrive un peu déconnecté. Et il y a aussi une petite réticence aussi, je pense, de la part des entreprises parfois qui se disent, il a vécu à l'étranger, est-ce qu'il va être en mesure de s'adapter à notre réalité ici?
Vous avez commencé avec un salaire à combien quand vous avez trouvé enfin un boulot?
Mon tout premier salaire était de 60 000 francs CFA. Pour un niveau bas plus 8.
Donc un peu moins de 100 euros.
Effectivement, ça refroidit effectivement les, voilà. les personnes qui souhaitent revenir. Mais
dans une entreprise,
il faut
quoi
mettre les choses en perspective. Dans une entreprise, dans l'informatique, donc encore un secteur qui est en pleine expansion depuis près de 8 ans maintenant.
7 ans après, où est-ce que vous en êtes?
7 ans après, je suis dans le domaine de l'informatique, mais en termes de salaire, j'ai un salaire qui a été multiplié par 200 en comparaison à ce que je touchais auparavant. C'est toujours en deçà de ce que je devrais toucher, mais ce que je veux faire passer comme message, c'est qu'il faut accepter qu'on arrive ici quand même avec un bagage qui n'est peut-être pas adapté au milieu auquel on vient s'intégrer, et qu'il faut accepter de réapprendre un peu à la vie à l'africaine.
Stéphane, vous avez choisi de rentrer dans votre pays, c'est-à-dire le Burkina Faso, en proie à une crise, à une menace djihadiste qui évidemment pèse sur le développement économique. 7 ans après, est-ce que vous avez des regrets, Stéphane?
Absolument aucun. Mon seul regret, c'est de n'être pas parti plus tôt. Si après mon premier diplôme universitaire, j'étais rentré au Burkina, je pense qu'aujourd'hui, je serais beaucoup plus en avance que le niveau où je suis actuellement.
En tout cas, bravo pour ce beau témoignage. En fait, effectivement, ce que vous dites est parfaitement vrai, parce qu'aujourd'hui, ce que révèle l'étude, c'est qu'effectivement, le manque d'informations est aujourd'hui vu comme une difficulté majeure par les membres de la diaspora, parce qu'il n'y a pas forcément beaucoup d'informations sur les opportunités. Et c'est pour ça que nous, en tout cas qu'employeurs, on voudrait justement rapprocher à notre modeste niveau, en tout cas les deux, parce qu'il y a des opportunités en Afrique. Et on va en Afrique parce qu'il y a aussi des opportunités, pas forcément parce qu'on va forcément aider le pays, parce qu'on voit souvent ce lien, vous avez parlé de psychique
oui,
tout à l'heure.
Mais tout est un peu mélangé finalement.
On a envie d'aller aider, mais il y a des opportunités. Nous, on cherche des postes de directeur, de manager, et on peine, on met des mois à trouver des compétences. Et c'est pour ça que, d'ailleurs, on va aller chercher là où ils se trouvent, en Afrique comme ailleurs, parce qu'il y a un vrai besoin aujourd'hui. Et vous avez parlé tout à l'heure
d'intégration. Votre premier salaire, c'est pas 100 euros, comme le décrivez.
Quand même pas. On est sur des standards beaucoup plus élevés, avec des conditions beaucoup plus
équivalentes. Vous êtes sur des standards beaucoup plus élevés, mais il y a quand même beaucoup de gens qui nous disent les salaires, c'est pas ce que vous croyez, c'est difficile, parce qu'évidemment, ces personnes-là ne sont pas réintégrés dans leur pays avec des postes d'expatriés. D'ailleurs, ce n'est pas le but.
Tout à fait. Je veux dire, si on veut rentrer, je suis membre de la diaspora, je veux rentrer en Afrique, à ISO salaire, je convertis de l'euro en franc CFA. Effectivement, ce n'est pas des choses qui arrivent tous les jours. Ça peut arriver pour certains postes très rares, mais globalement, on a un package qui est compatible avec les pratiques du marché local. Sinon, dans des entreprises comme du service, comme nous, on n'a pas forcément beaucoup d'intérêt.
Mohamed Maïga, vous avez une question à poser en termes de salaire là, à Saad Berada.
Oui, surtout, est-ce que je pense qu'il faudrait aussi qu'on mette aussi la question du choix dans le salaire. Parce que faire le choix de partir pour une raison de bien-être, parce que l'Afrique c'est bien, parce que mon pays c'est bien, j'y vais pour cette raison, c'est la première priorité. C'est différent de je vais y aller pour gagner ma vie, parce que c'est ma priorité. Je ne sais pas si vous êtes posé cette question de savoir si la raison principale du retour c'est le bien-être, est-ce que le salaire est si important? Parce que dans le retour des deux auditeurs là, moi j'entends plutôt le fait qu'ils ont fait un choix de bien-être. Je voulais être bien, donc je suis parti. Et puis j'ai galéré. Mais le salaire est venu plus tard. Et voilà, investissement. Est-ce que vous êtes intéressé à cette question?
Bah, tout à fait. D'ailleurs, la quête de sens, c'est ce qui sort comme motivation principale. Alors que la rémunération, même si effectivement elle est très importante, est arrivée en troisième position à 32%.
On va prendre une auditrice qui souhaite réagir à notre auditeur Stéphane qui était revenu et qui était revenu depuis 7 ans au Burkina Faso. Kambé est à Conakry en Guinée. Bonjour Kambé, je crois que vous voulez réagir, mais par rapport à un autre témoignage, à Sekou, qui est pharmacien en région parisienne et qui se demande quoi faire, est-ce que je dois rentrer alors qu'une partie de sa famille, son épouse, sa fille est en Guinée-Conakry. Kambé, vous êtes guinéenne à Conakry, vous souhaitez lui répondre, c'est ça Kambé?
Enfin, bonjour à tous les auditeurs de cette milliard de voisins. En fait, j'ai écouté le témoignage de Sékou et je suis française d'origine guinéenne. Mmh. Et je vis à Conakry depuis 8 ans. Il a utilisé le terme intégré. Il a dit que quand il rentrait en Guinée, il ne se sentait pas intégré. Étant né en France, le mot intégré pour moi, intégration, a quand même lourd de sens. Mmh. Je voulais juste dire que peut-être qu'il se sent décalé, parce que quand on vient en Guinée, qu'on soit né à l'étranger ou qu'on ait quitté la Guinée depuis des années, on est taxé de diaspora ici en Guinée. Mmh. Et donc, tout de suite, on est un peu jugé comme des personnes un peu décalées par rapport à la réalité guinéenne. Mmh. Et je doute qu'en revenant en Guinée, en ayant sa famille ici, lui ne soit pas véritablement... intégré. Il est forcément intégré.
Alors finalement, qu'est-ce que vous lui conseillez à ses coups?
Ce que je lui conseille, c'est de peut-être de ne pas penser qu'en rentrant en Guinée, il aura le même niveau de vie et les mêmes...
Non mais ça, on est bien d'accord. Ouais.
Des mêmes possibilités qu'en France et d'accepter le fait que...
à quoi vous avez renoncé principalement depuis 8 ans que vous êtes rentré en Guinée?
Alors, j'ai renoncé à un niveau de vie parce que j'ai vécu 15 ans à Washington. Je suis consultante internationale. Et il est clair que le niveau de vie et la qualité de vie à Conakry est complètement différente de celle de Washington.
Merci beaucoup, Cambé. Je suis désolée, vous êtes très nombreux à pousser au standard. Qui on accueille là? On a Brigitte qui nous appelle au 33 1 84 22 71 71. Brigitte, vous nous appelez de Martinique. Vous êtes originaire du Cameroun ou vous êtes revenue au Cameroun, c'est ça?
Oui, c'est ça. Bonjour.
Oui.
Bonjour.
Donc oui, bonjour à tous. Je suis revenue au Cameroun vraiment volontairement parce que j'ai quitté mon pays, j'avais 20 ans. Et à 50 ans, 58 ans, j'ai décidé de revenir au Cameroun pour créer dans le village où je suis née une plantation de vanille. Je me suis retrouvée confrontée principalement à deux choses qui m'ont fait rebrousser chemin. Principalement la corruption, c'est-à-dire quelle que soit la démarche que vous cherchez à faire, il y a des personnes qui vont vous bloquer le dossier tant que vous ne payez pas un dessous de table.
Tout à fait.
Que ce soit dans le privé ou que ce soit dans le public. Et ça a été très dur pour moi. Et aussi, au village, parce que je suis une femme, là, je me suis retrouvée dans mon passé, j'avais oublié, qu'une femme ne possède pas. Et donc là, à 58 ans, je me suis retrouvée avec des cousins qui m'ont dit « donne l'argent » jusqu'au jour où on m'a menacé de me tuer. Et donc, je suis revenue en France en 2010. Voilà.
Et donc, de nouveau réinstallée en Martinique. Oui. Merci beaucoup pour ce témoignage, Brigitte. Je continue de vous donner la parole au 33 1 84 22 71 71. Alioum, vous êtes justement Camerounais installé au Maroc pour vos études. Bonjour Alioum.
Bonjour.
On a entendu le témoignage de Brigitte. Je voudrais quand même bien préciser que le Cameroun est aussi un pays qui a une extraordinaire vitalité de par ses petites et moyennes entreprises, parce que tous ces problèmes et ces points positifs également cohabitent pour former un pays. Alioum, vous êtes parti pour vos études, vous êtes installé à Casa pour vos études, vous avez obtenu un diplôme d'ingénieur l'année dernière. Félicitations. Vous vouliez rentrer au Cameroun. Vos parents ont dit non, on t'envoie pas le billet d'avion.
Exactement, oui. En fait, ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai terminé mes études en 2018, j'avais comme projet de rentrer. C'était ça vraiment, parce que le Maroc, il y avait déjà eu beaucoup de choses qui s'étaient passées, donc je voulais rentrer. Alors, j'en ai fait part à mes parents, je leur ai dit, voilà, j'ai fini mes études, je pense que je peux déjà... travailler, j'ai déjà eu de l'expérience ici, j'ai fait quelques stages. Donc, est-ce que je peux rentrer? Est-ce que vous êtes d'accord? Comment est-ce que vous voyez mon projet? Et à ce moment-là, ils m'ont fait comprendre que non, tu ne rentres pas. Ou du moins, si tu veux rentrer, tu te débrouilles pour rentrer. le Cameroun, et ils m'ont dit ça clairement de cette manière-là, le Cameroun n'est pas prêt pour toi. Il n'y a rien pour toi ici.
Donc c'est pour vous protéger qu'ils souhaitent que vous restiez au Maroc pour l'instant. Merci beaucoup de nous avoir appelés. Je voudrais qu'on prenne un dernier auditeur. Mamadou Fall nous appelle de Dakar, président du collectif des cadres de la diaspora. Bonjour Mamadou Fall.
Oui, bonjour Emmanuel.
Vous avez entendu un peu toute la nature de nos discussions, évidemment très différents en fonction des pays dont on parle. Mais vous, comment vous vous situez? Vous avez fait vos études en France et aujourd'hui vous êtes président du collectif des cadres de la diaspora au Sénégal.
Tout à fait. Tout à fait. J'ai fait mes études à Perpignan et après je suis allé à Toulouse pour terminer mes études en droit des affaires et des transports. Et depuis 2012, je suis rentré définitivement au Sénégal où je dirige une association qui prône le retour au bercail de la matière grise sénégalaise.
Ouais. Donc il y a un message à faire passer?
Oui, le message à faire passer, c'est que l'Afrique a besoin de ses fils. L'Afrique est une terre vierge et que l'Afrique est à faire. Et l'Afrique ne se fera jamais sans ses fils. Plus particulièrement au Sénégal, où nous avons du pétrole, du gaz, du zircon, et que nous avons besoin de la matière grise, de l'expertise, parce que vous savez, on a été formés dans les plus grandes écoles françaises, universités françaises. Maintenant, l'heure du retour a sonné. On doit vraiment retourner au bercail, participer au Sénégal, au développement du Sénégal, à l'émergence du Sénégal. Parce qu'avec le plan Sénégal émergent Horizon 2035, lancé par son Excellence, Monsieur le Président de la République, le Sénégal, vraiment, est en marche.
Alors, il y aura un fonds d'appui d'aide au retour. Quel sera le montant de ce fonds d'appui d'aide au retour?
Comment?
Il y aura un fonds d'appui d'aide au retour avec un montant déjà déterminé pour inciter?
Oui, il y a, par exemple, des partenaires comme l'Office français de l'immigration, qui a initié une aide au retour de 7 à 15 000 euros pour les jeunes entrepreneurs qui veulent vraiment rentrer et créer de la matière, vraiment de la valeur.
Merci beaucoup Mamadou Fall de nous avoir appelé. Il nous reste quelques secondes. Je voudrais juste lire le message, une réaction d'un auditeur Mogo qui est comorien en France depuis 6 ans. Il est ouvrier et il dit: si j'avais les moyens de rentrer aux Comores, je le ferais car la famille me manque, mais investir aux Comores, c'est pas simple quand la famille demande de l'aide financière. On revient au premier message de notre ami comorien qui disait aussi que les diasporas sont pompés littéralement et que donc c'est difficile de mettre de l'argent de côté pour pouvoir ensuite investir. Ça, c'est ceux qui voudraient investir sur place. David Gay, vous avez entendu le message. Alors, je ne sais pas si vous êtes concerné, vous.
J'ai entendu le message de l'auditeur précédent. Et ça, c'est une réalité. C'est vrai qu'on a besoin de cette matière grise. On a besoin de cerveaux aujourd'hui. On a une fuite des cerveaux qui est constatée par toutes les entreprises africaines qui ont des fois des difficultés à trouver des emplois hautement qualifiés. Et on a besoin aujourd'hui de profils, de personnes qui à la fois maîtrisent les codes locaux et les réalités locales, mais aussi qui sont conformes aux standards professionnels internationaux. Ouais. Et c'est ces doubles profils aujourd'hui qui sont peut-être pas valorisés en Europe ou en Occident, Mohamed, mais qui ont une vraie valeur ajoutée en
Afrique.
Il
nous reste 15 secondes pour conclure.
Je pense que quand on veut quelque chose, il faut l'acheter. On est dans ce monde-là. Donc, les entreprises africaines, les États africains, s'ils ont besoin de la matière grise africaine, il faut qu'ils s'investissent, il faut qu'ils se donnent les moyens de les rapatrier. C'est aussi simple que ça. Tous les pays font le pareil, on doit faire la même chose.
Merci à vous tous d'avoir participé à cette émission. On se retrouve demain, même heure, même endroit. Merci aussi à toute l'équipe. Je n'ai pas pu lire tous vos messages et prendre tout le monde au téléphone. Vous étiez très nombreux. Merci encore de l'intérêt que vous nourrissez pour 7 milliards de voisins. On se retrouve demain en direct à 10h10. Universel, on parlera des enfants sans identité.
RFI, tout à l'heure sur RFI.